m'appelle Sacha Léopold,
je suis graphiste, je suis cofondateur du studio Syndica avec François Leger. Avec qui depuis 6 ans maintenant, on mène des projets de graphisme avec majoritairement des institutions culturelles, des artistes, soit des projets de collaboration imprimée, des projets d'exposition, ou bien des projets en ligne. Il y a 2 ans maintenant, après avoir cofondé avec Thierry Champion une maison d'édition qui s'appelle Tombolo Press, une maison d'édition qui a cristallisé pas mal de publications et d'énergie de différentes personnes, que ce soit des artistes, des chercheurs, des artistes. On a fondé une autre maison d'édition, elle plus proche de nos activités, en tout cas vraiment liée à des projets que l'on souhaitait traiter avec François. Cette maison d'édition s'appelle Empire, donc je suis le président d'Empire. Je n'ai pas mis de costume aujourd'hui, mais je suis surtout venu vous parler d'une revue qui est le troisième objet que l'on publie au nom d'Empire. Cette revue est une revue autour du graphisme et de ses extensions, des images, de la typographie, des livres, des expositions, qui a un format assez particulier puisque en tant que graphiste, mais aussi en tant qu'enseignant, on était un peu déçus de ne pas avoir d'ouvrages qui sortent avec un rythme régulier en France. Les publications intéressantes sortent quand elles en ont les moyens, quand elles en ont l'énergie, quand elles en ont le temps. C'est tout à leur honneur, puisque généralement c'est des publications très intéressantes, mais on était assez frustrés d'un échange et d'un rythme qui se créerait entre des lecteurs et des gens qui proposent un contenu. Donc on a sorti une revue qui s'appelle Faire, qui est une revue qui sort d'octobre à mai, plutôt sur le rythme, sur la période scolaire, et qui sort tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours, c'est 2 fois par mois. Deux fois par mois, ça nous fait 15 numéros entre octobre et mai, qui nous permettent de sortir à chaque fois 20 pages, pour lesquelles un auteur est invité à écrire sur un sujet que l'on discute ensemble, ou pas, ou qui est amené par l'auteur, ou qui est amené par nous en connaissance des centres d'intérêt que l'on a à aller inviter cet auteur. Ça fait maintenant un mois qu'on a lancé cette revue, et donc aujourd'hui, on fête la sortie du numéro 3, le numéro 3 qui s'intéresse à un projet de publication monographique de deux graphistes hollandais qui s'appellent Armand Mévis et Linda Vandersen, qui en 2005 publie un projet qui s'appelle Recollected Work, qui revient sur leur travail, de manière assez particulière, puisque eux le traitent en faisant des photographies d'assemblage de leurs images. J'arrête ici pour la présentation de ce projet, mais j'y reviendrai un petit peu après. L'idée de cette présentation est, comme pour vous vendre des piscines, je vous montre un petit peu tous les programmes de cette revue, numéro par numéro, en restant évidemment en surface, puisque j'attends bien évidemment qu'après tout ça, tout le monde s'y abonne ou tout le monde commande les numéros préexistants. Le numéro 1 s'intéresse à la collection Rouge-Gorge des éditions 100 pages, collection dessinée par SP Millot, donc Sophie et Philippe Millot. Elle a été réalisée autour d'un entretien réalisé par Thierry Champcogne avec les deux protagonistes de la collection, en tout cas du dessin de la collection, puisque Olivier Gadet, étant l'éditeur, est aussi une personne très présente. Ça nous permet de parler de différentes choses, de parler de qui signe des documents, comment on fait travail chez SP Millot, c'est-à-dire Sophie et Philippe Millot, Sophie ne dessinant pas, mais Sophie participant aux tâches ingrates comme gratifiantes du duo. Ça nous permet aussi de parler de typographie, de sa relation privilégiée au caractère de Matthew Carter, du travail historique du livre, du club du livre. L'idée de la revue étant à chaque fois d'amener un sujet qu'on appelle tentaculaire qui va pouvoir nous permettre de regarder un spectre différent, historique, de publications ou de travaux contemporains ou d'autres travaux qui feraient ou non référence ou qui seraient totalement contraires à cet objet que l'on analyse. Ici c'est une image d'un ouvrage des clubs du livre qui nous intéressait par sa fabrication, puisque des pages sont ajourées évidemment manuellement. Dans le numéro 1, on retrouve aussi, comme un petit supplément, réservé évidemment aux abonnés, certains dessins de Philippe Millot qui nous explique qu'il n'est justement, en tout cas il n'estime pas se prétendre graphiste ou designer, il nous explique dessiner des livres. Et quand il nous explique vraiment dessiner des livres, c'est qu'il dessine des livres comme une partition, comme un croquis. Ici, c'est un schéma de livre et de ses quatre parties qui sont à dessiner typographiquement, mais dont le rythme est montré ici à l'éditeur sous forme d'un croquis. On arrive au numéro 2 de la revue qui, lui, s'intéresse à un rapport à la technique autour du studio suisse Maximage, qui est un studio qui, depuis ses études à l'ECAL et depuis le workshop qu'ils conduisent depuis quelques années dans cette même école, s'intéresse aux procédés techniques d'impression, à leur investigation. Ici, c'est un reportage photographique où ils interviennent directement sur les plaques offset, qui sont les matrices d'impression, où ils viennent dégraver des plaques, donc enlever de la matière, gratter ces plaques, qui a donné lieu à d'ailleurs un très beau catalogue pour l'artiste Philippe Daredinger. En tout cas, ils interviennent directement sur les matrices en cours ou en amont de l'impression. Le numéro 3, dont on fête aujourd'hui la sortie, est cette monographie de Mavis Evanderson, monographie qui a fait date puisqu'elle a donné lieu par la suite à différents objets qui s'en sont inspirés ou écartés. On pense notamment à la monographie d'Experimental Jet Set, eux aussi studio hollandais, ou à la monographie plus récente du studio français de Valence. C'est un objet assez particulier qui nous intéresse aussi dans la revue, puisque ce n'est qu'un livre, ce n'est pas grand-chose en termes de valeur financière, mais comme beaucoup d'objets qui a séduit un public, il s'est retrouvé épuisé. Aujourd'hui, c'est un objet qu'on trouve sur eBay à des prix prohibitifs. Ce qui nous intéressait, c'était justement de pouvoir en parler aux étudiants ou au public qui y sont intéressés, en parler avec des mots, en essayant évidemment pas de remplacer l'ouvrage, mais de pouvoir mettre des mots à un ouvrage dont on verra sans doute peu de choses, hormis qu'il soit possédé par une bibliothèque à laquelle on a accès. C'était aussi l'objet de l'exposition ici, c'était pouvoir présenter quelques ouvrages dont on parle dans cette revue, même si évidemment on ne peut pas les manipuler, puisque j'aimerais bien que mes livres personnels reviennent dans ma bibliothèque en bon état. Le numéro 4 s'intéresse ici à la pratique d'un artiste, qui a quitté ce monde en début d'année, qui s'appelait Stanley Brown, qui est un artiste surinamien qui exerçait depuis des dizaines d'années aux Pays-Bas, qui a une pratique en toute discrétion de la performance. Quand je dis en toute discrétion, c'est que pendant des années, il a essayé d'éviter, par des stratagèmes assez divers, les reproductions de son travail, jusqu'à aller par la suite à refuser, ou en tout cas essayer d'éviter d'être à ses propres vernissages. Au-delà de cette discrétion, il nous est un jour apparu dans différentes recherches à la bibliothèque Kandinsky que Stanley Brown s'intéressait à écrire une forme de graphisme, une forme de communication de son propre travail au sein des différentes institutions dans lesquelles il était invité à montrer son travail, puisque il faisait table rase. Pour reprendre ce sujet de la table Pia, table rase de ces identités dont disposaient les institutions qui l'invitaient pour y amener sa propre écriture graphique et typographique. En l'occurrence, à la fin, il finit par utiliser l'Helvetica dans un corps quasiment identique à chaque fois, en évitant au plus que possible l'usage des capitales. Ici, c'est le verso du carton d'invitation de l'exposition qui devait avoir lieu à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne et qui a été annulée une semaine avant l'ouverture de l'exposition. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est volontaire ou si c'est politique, mais en tout cas cette exposition n'a jamais eu lieu, mais l'écriture reste la même. On a d'un carton à l'autre des mêmes formes graphiques. L'auteur ici invité et Céline Chazal-Viel, qui s'intéresse aux publications d'artistes en travaillant à la Villa Arson comme chargée des éditions, reviendra aussi sur le travail de l'artiste. On n'y parle pas que de graphisme, justement. Je fais un petit écart sur le sujet suivant, puisque Jérôme en parlera beaucoup, beaucoup mieux que moi. Donc Jérôme Dupéra, qui travaille avec nous cette année sur deux projets de publication. Le premier consacré, en tout cas qui part du catalogue Parallèle Encyclopédia, projet de l'artiste Batia Sutter. Je dis catalogue parce que c'est un catalogue d'images, mais c'est un livre d'artiste en soi, dont il nous parlera plus précisément par la suite. Autre projet, qui est ici traité par une auteure qui s'appelle Lise Brosseau, qui est l'essai du graphiste et théoricien Peter Bilak, qui propose au sein de la Biennale de Brno en 2006 un essai en invitant une quinzaine de graphistes à proposer des formes d'affiches qui feraient elles-mêmes la communication de leur propre exposition, c'est-à-dire que les studios invités étaient invités à faire des affiches qui seraient montrées par la suite dans la galerie. Cette exposition s'intitulait Graphic Design in the White Cube. Ce qui est intéressant ici, c'est que le propos textuel, qui en plus de ça est traduit par Lise Brosseau, est très intéressant dans les questions qu'elle convoque. Le résultat physique et photographique de l'exposition est de notre point de vue très médiocre, puisque les productions sont très inégales, remplies de gimmicks, de studios déjà reconnus ou en début de reconnaissance, mais formellement très légers. Mais pour autant, le texte est très intéressant. On se disait, est-ce que finalement le texte n'aurait pas suffi, le projet d'expo n'aurait pas suffi, est-ce qu'il aurait fallu montrer des images ou non. Ce sera l'objet d'un des très très prochains numéros, pour ne pas citer le numéro 6. Ici, un travail d'une personne un petit peu de l'ombre, qui s'appelle Robert Brown John, qui est un graphiste américain qui a plutôt travaillé dans la publicité, dont les deux projets majeurs est cette fameuse affiche pochette des Stones avec ce gros gâteau, dont j'oublie le titre de l'album. Et le deuxième travail très connu est le clip de James Bond pour Goldfinger, qui sont ces projections sur des corps de femmes dorées. C'est un graphiste assez étonnant, puisqu'il est mort assez jeune. C'est pour l'histoire le seul graphiste mort d'une overdose qui soit un petit peu rentré dans l'histoire, mais qui a eu justement une pratique assez marginale et assez sinueuse, c'est-à-dire qu'il a utilisé des champs très différents, très connus ou très méconnus, en travaillant pour des agences ou pour des petits projets très modestes. Là, on aborde une partie qui se voudrait très scientifique, puisqu'on aborde la typographie et le dessin de caractère au travers d'un caractère qui s'appelle le mitim. Le mitim utilisé et commandé par Peter Bilak et Stuart Bailey, un graphiste qui s'appelle Radim Peshko, pour être utilisé dans une revue qui s'appelle Dot Dot Dot, en tout cas qui s'appelait Dot Dot Dot, et qui a un caractère assez particulier, puisque il était seulement utilisé dans cette revue, et qu'à chaque nouvelle occurrence de la revue, une nouvelle occurrence du caractère devait être proposée par le typographe. Donc on explorera toute cette famille de caractères au sein des revues. On y parle aussi de support, en tout cas de médias internet, au travers d'un post Instagram réalisé par le studio hollandais Experimental Jam Set pour un lieu musical dont ils réalisent l'identité depuis plus d'une vingtaine d'années. Ils ont commencé l'identité de ce lieu, je pense, quand ils étaient encore étudiants. Ce lieu s'appelle Paradiso, et cet article écrit par Manon Bruet, qui elle est graphiste, qui vit du graphisme, qui est associée au bureau design graphique Spassky Fischer, bureau français. Cet article regardera différentes approches, c'est-à-dire le travail d'Experimental Jet Set, dans la durée, dans les gimmicks aussi, puisque c'est des formes de production graphique que l'on retrouve dans d'autres projets à certains endroits, mais aussi les manières de médiatiser son travail. Étonnamment, Experimental Jet Set, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, à chaque post propose des lignes et des lignes de texte qui accompagnent leur travail et qui viennent en donner des clés ou des histoires parfois parallèles, mais sont un des rares studios à écrire des lignes et des lignes de texte parfois très enthousiasmantes, parfois très longues, mais qui essayent de l'accompagner par cette forme-là. Ça nous permettra aussi de regarder d'autres approches du travail par d'autres studios. Ici, un travail qui nous semblait emblématique dans l'histoire de la communication des théâtres, la communication du Théâtre de l'Orient, réalisée pendant plus d'une vingtaine d'années par le studio M&M, qui accompagne chaque nouvelle création de pièces par une création de poster. On parlait de gimmick tout à l'heure. Chaque affiche est l'objet d'un usage typographique différent, mais un usage typographique différent, parfois utilisé à d'autres endroits pour d'autres commandes. Le travail photographique est le même. Parfois, on retrouve sur certaines images, évidemment pas celles que je montre ici, on peut y trouver une image de mannequin shootée pour une grande marque de luxe ou bien une image de Björk au bord d'une piscine en train d'être photographiée pour la pochette de son album. Il est question de regarder toutes les rémanences de ces formes, qu'elles soient photographiques, graphiques ou même de discours utilisés pendant 20 ans. On s'attachera ici à l'analyse d'une seule et unique affiche, évidemment en en citant d'autres, mais une seule et unique affiche sera décortiquée autour de ces 20 pages de la revue. Un des numéros prochains, en l'occurrence le 7, s'intéressera au travail de Colin Sunier et Charles Mazet. Je vous montre Astérix, pas du tout parce qu'ils sont fans d'Astérix ou parce qu'ils dessinent Astérix, simplement parce qu'ils étaient résidents assez récemment à la Villa Médicis, et qu'ils se sont intéressés à quelqu'un qui pratiquait le graffiti sur les murs. Ils se sont intéressés à le suivre, à documenter son travail, mais cette question de la documentation est une question qui est récurrente depuis leur passage dans les différentes écoles, et notamment la question de la collecte, la question de l'appropriation, la question de l'organisation des formes, pour atterrir jusqu'à un travail en cours et très récent, qui est l'identité du centre d'art de Bretigny, pour lequel ils produisent un inventaire de signes typographiques existants dans le périmètre du centre d'art, préexistant parfois à l'identité du centre d'art, mais en tout cas, ils s'emparent de formes qui existent pour les organiser, pour leur donner, pour en créer une écriture qui soit celle du lieu. Le centre d'art, du coup, comme une espèce de lieu où des choses se cristalliseraient ou pourraient être réutilisées. Ici, une autre identité de théâtre, qui est le Schauspiel de Zurich, dessiné par le graphiste suisse Cornel Windlin, qui est intéressant à plusieurs titres, notamment dans la richesse des sujets, des supports qui sont créés. Ça va d'affiches à bribus, à des tout petits dépliants spécifiquement pour des programmes, et par l'omniprésence de cette forme circulaire qui vient marquer, perforer, ajourer, occulter un ensemble d'images provenant parfois d'Internet, parfois d'iconographie, trouvée en lien ou non avec des spectacles. Toujours aussi dans une espèce de retenue des informations, en l'occurrence une saison annoncée et la date, le lieu et le téléphone pour avoir des compléments d'informations. On est là vraiment sur la question de la force des images. Un texte très dense, proposé par Catherine Guiral, qui est une forme de digression autour de la main, et de la manipulation du graphiste comme bonimenteur, comme présentateur, avec des mains plus ou moins présentes dans des situations de film, dans des situations de couverture. Tout ça part d'une couverture de revue d'architecture qui s'appelle l'architecture d'aujourd'hui, notamment le numéro 58, pour atterrir aussi sur des affiches de films. C'est une digression autour d'une somme assez conséquente de références qui fera l'objet, encore une fois, d'un objet particulier. J'en reviens sur le projet global de la revue. Quand je dis projet, pas objet particulier, on est sur une forme de 20 pages d'un carton plié en deux avec 16 pages sur coucher brillant. Donc c'est un objet très fin, mais auquel on s'attache à chaque fois à donner une forme propre à son sujet ou une forme qui puisse aussi donner une certaine générosité aux abonnés. Quand je dis aux abonnés, évidemment, vous comprendrez que le propos n'est pas que mercantile. Si on fait cette revue tous les 15 jours, ce n'est pas pour ne pas dormir, c'est surtout pour essayer de créer un lien et de se dire que tous les 15 jours, on envoie quelque chose aux abonnés. Et ces abonnés, souvent, dans les objets, reçoivent des extensions de l'objet. Ça peut être un poster qui va nous montrer, par exemple, une collection un peu plus large des cartes de l'artiste Stanley Brown, une fausse couverture pour le numéro 1 des dessins de livres de Philippe Millot, pour le numéro 2 qui s'intéressait à la pratique des graphistes Maximage, qui traitait, et je me rends compte que je ne vous en ai pas parlé, qui traitait d'une plateforme qui vend des profils colorimétriques. Les profils colorimétriques, qu'est-ce que c'est ? C'est des systèmes informatiques qui permettent de préparer une image à l'impression, pour l'impression. Généralement, c'est des profils qui vous permettent soit d'afficher une image en rouge, vert, bleu pour l'écran, ou d'imprimer en cyan, magenta, jaune, noir pour l'impression, sérigraphique ou offset. Mais eux proposent différents profils qui permettent d'imprimer en ton direct, donc à partir de couleurs Pantone, en deux couleurs, en trois couleurs, en cinq couleurs, ce qui nous permet parfois d'élargir le spectre chromatique, parfois de le réduire énormément, et tout ça pour dire que les abonnés reçoivent un poster réalisé en trois couleurs, recto verso, mais aussi un poster réalisé en quatre couleurs. Ce qui a été notre surprise, c'est que quand on a commandé pour offrir ce poster en quatre couleurs, on s'est dit... Évidemment, les trois couleurs, ça va être super bien parce que les couleurs, c'est des fluos. Et en fait, on passe nos journées à l'atelier à comparer ces deux posters, puisque certaines parties sont plus intéressantes que d'autres, certaines sont totalement bouchées, certaines n'ont plus d'informations, et certaines, que ce soit par la quadrichromie ou par cette trichromie spécifique utilisée, ont plus ou moins d'informations. Donc, c'était en tout cas l'intérêt qu'on trouvait à offrir aux abonnés un objet un petit peu supplémentaire. Ici, le deuxième sujet dont traitera Jérôme Dupéra, qui s'intéresse à regarder comment certaines expositions sont cataloguées, c'est-à-dire que garde-t-on comme trace d'exposition, ou le projet d'exposition est-il un projet qui va nous donner un projet de catalogue, ou le catalogue est-il pensé pour être exposition ? On regardera ici les connexions qui se font entre catalogue et exposition. En l'occurrence ici, c'est un travail d'une graphiste qui s'appelle Julia Borne, qui propose une exposition qui, elle, était consacrée à être photographiée, et ces mêmes photographies étaient imprimées à une échelle réduite, je crois autour d'un format A4, avec l'ensemble des informations qui constituent normalement un catalogue. On pense à la pagination, on pense aux légendes des images, on va juste, et là évidemment on n'a pas l'image, on va jusqu'à l'ISBN, le colophon et tous les crédits qui en résultent. Ici un autre travail qui est le catalogue de Simon Starling réalisé par le graphiste Jérôme Saint-Loup-Berbier, qui présente deux objets qui nous semblent identiques en photographie et finalement qui sont très proches de manière réelle, puisqu'il s'agit de l'objet imprimé et de la maquette en blanc de l'objet à imprimer. Maquette en blanc qui est en fait pas vraiment une maquette en blanc, puisque la couverture est une forme numérisée, si je ne me trompe, de la couverture, qui du coup joue une espèce de double, mais de double vide d'une part, mais qui nous signifie déjà l'encombrement, la question de l'espace, la question de cet espace à utiliser. Question de l'espace aussi et de production assez intéressante, puisque On voit ici des photos du catalogue que l'on est en train de regarder en cours d'impression. Pirouette technique qui consiste seulement à décaler une partie du catalogue en termes d'impression, mais le propre catalogue est déjà reproduit dans son propre système. Je me rends compte que je suis passé sans doute sur énormément de choses, puisque je crois que j'ai fini. J'ai ramené quelques exemplaires de la revue, donc du troisième numéro, qui n'était peut-être pas encore montré là, qui sera à partir de demain. Et puis quelques posters, évidemment, à emmener, qui vous résument aussi le programme de la revue, puisqu'évidemment, on connaît les 15 numéros, puisque d'ici 15 jours, un nouveau numéro sort et qu'on est déjà en train de préparer le numéro 10. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas.